VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 10 juillet 2023. La CDAO a choisi le chef de l'État nigérian, Bola Tinubu, comme son nouveau président en exercice. En Guinée, le gouvernement de transition donne un ultimatum à plusieurs partis politiques afin qu'ils se mettent en règle. Au Gabon, Ali Bongo Ondimba face à une opposition divisée à la présidentielle du 26 août.
Si le pouvoir en place organise des élections dans de très bonnes conditions, de transparence, le Gabonais choisirait le meilleur candidat à qui correspond à leur aspiration.
Nous retrouverons Marc Ona, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest, dans la partie magazine. 86 migrants secourus au large de l'archipel espagnol des Canaries. Le président Joe Biden a rencontré aujourd'hui le roi Charles et Rishi Sunak à Londres avant le sommet de l'OTAN prévu demain en Lituanie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Les chefs d'État de la CDAO réunis en sommet à Bissau ont choisi dimanche le Nigérian Bola Tinubu comme président en exercice de l'organisation sous-régionale. Monsieur Tinubu remplace le dirigeant bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Les détails avec Nani Talani.
Bola Ahmed Tinubu s'est engagé à accorder la priorité à la stabilité politique, la paix, la sécurité et l'intégration économique inclusive dans la CDAO. Concernant la paix et la sécurité, la menace a atteint un niveau alarmant et nécessite des actions urgentes pour relever les défis. Nous devons rester déterminés à utiliser tous les cadres régionaux à notre disposition pour faire face à la menace de l'insécurité, a-t-il déclaré dans un communiqué ce lundi. M. Tinubu a ajouté que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement, bien qu'elle soit très difficile à gérer. Nous en avons besoin pour être un exemple pour le reste de l'Afrique et du monde. Nous ne permettrons pas qu'il y ait coup d'État après coup d'État en Afrique de l'Ouest, a-t-il ajouté, appelant à une action rapide contre l'insécurité, le terrorisme et les putschs. La CDAO a exhorté les juntes au Mali, en Guinée et au Burkina Faso à respecter les délais pour remettre aux civils le pouvoir au risque des sanctions majeures.
En Guinée, le procès historique de l'ex-dirigeant militaire Dadis Camara, jugé pour un massacre commis le 28 septembre 2009, a repris aujourd'hui après avoir été suspendu plus d'un mois à cause de deux grèves successives. Ce procès était suspendu depuis le 29 mai, les avocats refusant de plaider parce qu'ils disaient n'avoir toujours pas été payés. Il devait reprendre le 21 juin après un accord trouvé entre les deux parties, mais a été ajourné de nouveau après une grève des gardiens de prison. Toujours en Guinée, le gouvernement de transition donne un ultimatum à plusieurs partis politiques afin qu'ils se mettent en règle. Selon un rapport publié par les autorités de Conakry, 11 autres formations politiques sont dans le collimateur du gouvernement. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Sur 187 partis politiques agréés en Guinée, 79 ont été visités. 4 dont le RPG Attentiel, le parti d'Alpha Condé, n'ont pas reçu la mission. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation demande aux responsables de ces partis de se présenter à la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale au plus tard le lundi 17 juillet 2023 à 12h. Le ministre Mouri Kondé a indiqué dans un communiqué son intention d'établir un calendrier de visite au siège de ses formations politiques. Il a ajouté que passé ce délai, il se verra dans l'obligation d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. En réaction ce week-end, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel se dit disposée à recevoir toute mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Selon le rapport, 44 partis politiques sont sans adresse, 11 autres sont en contentieux. Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Conakry.
Un couvre-feu a été instauré dimanche dans une zone du centre du Nigeria après de nouvelles attaques entre communautés qui ont fait au moins 9 morts, ont annoncé les autorités. Le district de Mangou, dans l'état de Plateau, est en proie depuis 2 mois à de graves violences entre des agriculteurs et des éleveurs qui ont fait plus de 200 morts. Deux chefs djihadistes du groupe État islamique au Grand Sahara ont été arrêtés début juillet lors d'une opération conjointe des armées nigériennes et françaises dans la région de Tillaberi, près de la frontière avec le Burkina Faso et le Mali. Il s'agit de Abou Mariam Dizaïd et Sita Ousseni, dit Loukouman, qui sont deux chefs du groupe État islamique au Grand Sahara, activement recherchés pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d'actes terroristes. Quelques 86 migrants venus de pays d'Afrique subsaharienne ont été secourus ce lundi à bord d'une embarcation au large de l'archipel des Canaries, ont indiqué des sauveteurs espagnols. Yacouba Ouedraogo.
Un avion envoyé par les sauveteurs avait initialement estimé que le nombre de personnes à bord de cette embarcation pouvait être d'environ 200. Salvamento Maritimo, le service espagnol de sauvetage en mer, avait ajouté que l'embarcation semblait correspondre à un bateau recherché dans la même zone après être parti du Sénégal il y a près de 2 semaines. Il reconnaît s'être trompé dans son estimation. La situation restait confuse et, interrogée par l'AFP, la porte-parole de Salvamento Maritimo n'était pas en mesure d'indiquer si une autre embarcation était à la dérive dans la même zone avec environ 200 personnes à bord. Un navire de secours en mer est en train de ramener les 86 migrants secourus vers l'île de Grande Canarie. Selon l'ONG Caminando Fronteras, une embarcation est partie le 27 juin de Kafountine, une petite ville côtière du sud du Sénégal, située à environ 1700 km des côtes des Canaries, avec environ 200 personnes à bord. Selon Caminando Fronteras, 2 autres embarcations parties du Sénégal le 23 juin sont aussi portées disparues avec environ 120 personnes à bord au total.
Une association tunisienne a lancé un appel aujourd'hui pour la mise en place d'une aide d'urgence en faveur de dizaines de migrants chassés de Sfax vers les frontières libyennes et algériennes. Beiti, une association d'aide aux femmes victimes de violences, a jugé nécessaire une coordination d'urgence regroupant les défenseurs des droits, les ONG, les institutions publiques afin de coordonner les efforts et mutualiser les ressources pour une prise en charge efficiente et de qualité des migrants subsahariens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden effectue une brève visite, mais symbolique au Royaume-Uni, démontrant ainsi une forte unité avec Londres. Il a rencontré le premier ministre Rishi Sunak, suivi d'une audience avec le roi Charles III à la veille d'un sommet crucial de l'OTAN en Lituanie. Le point avec Eric Manirakiza.
Monsieur Biden a été reçu par Charles III au château de Windsor pour un thé et un échange au sujet de l'environnement. Ils doivent prendre connaissance des conclusions d'un forum sur les financements en faveur du climat dans les pays en développement. Avant Windsor, Joe Biden a passé une quarantaine de minutes à Downing Street avec le Premier ministre Rishi Sunak. Joe Biden a vanté la relation solide comme le roc qui unit les deux pays. États-Unis et Royaume-Uni sont 2 alliés les plus fermes au sein de l'OTAN, a souligné Rishi Sunak. Les 2 dirigeants se sont accordés sur la nécessité de renforcer l'OTAN et de poursuivre le soutien à l'Ukraine pour qu'elle gagne face à l'invasion russe une paix juste et durable. Ils ont aussi partagé le souhait que la Suède puisse accéder rapidement et pleinement à l'OTAN, et selon un responsable occidental, l'Alliance va lever un obstacle majeur dans le processus d'adhésion de Kiev.
Les dirigeants des 31 pays membres de l'OTAN, attendus donc à Vilnius, demain mardi et mercredi, vont examiner la poursuite de leur aide militaire à l'Ukraine. Les membres de l'Alliance devraient discuter des modalités d'une adhésion potentielle de l'Ukraine à l'OTAN, alors qu'aucune position commune n'est encore affichée. L'Union européenne devrait ouvrir la voie à une adhésion d'Ankara avant que le Parlement turc n'approuve la candidature suédoise pour rejoindre l'OTAN, a déclaré aujourd'hui le président turc Recep Tayyip Erdogan. S'exprimant avant son départ pour le sommet de l'OTAN à Vilnius, Recep Tayyip Erdogan a affirmé que l'adhésion de la Suède dépendait de la mise en place de l'accord conclu l'été dernier lors du sommet de l'Alliance à Madrid, ajoutant que personne ne devait s'attendre à des compromis de la part de la Turquie. Recep Tayyip Erdogan a également affirmé que la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie faciliterait une adhésion de Kiev à l'OTAN. Le premier ministre néerlandais Mark Rutte ne briguera pas un cinquième mandat et quittera la vie politique après les prochaines élections en novembre, mettant ainsi fin à 13 années à la tête des Pays-Bas, le plus long mandat de l'histoire du pays. Mark Rutte a remis vendredi la démission de son quatrième gouvernement après avoir échoué à parvenir à un accord sur des politiques d'immigration plus strictes. Et puis les négociations se poursuivent à l'ONU pour trouver un accord sur la prolongation du mécanisme d'aide frontalier vital pour des millions de personnes en Syrie. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nani Talani.
L'ONG Human Rights Watch demande l'arrêt du méga-projet pétrolier de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie, estimant que c'est une catastrophe pour la planète et un désastre pour la population. Selon l'ONG, le projet a dévasté les moyens de subsistance de milliers de personnes qui ont perdu un terrain qui leur fournissait de la nourriture et un revenu leur permettant d'envoyer leurs enfants à l'école. Selon la société, les 5000 personnes qui seront déplacées seront relogées à proximité dans de meilleures conditions et que les enjeux environnementaux, de biodiversité et des droits des communautés concernées sont au centre du projet. Les revenus pétroliers totaux de la Libye ont atteint 6,95 milliards de dollars au premier semestre 2023 contre 37,3 milliards de dinars libyens à la même période l'an dernier, a annoncé la Banque centrale. Pour terminer, en Égypte, l'inflation a atteint un record de 36,8% en juin contre le dernier record de 34,2% établi en juillet 2017, d'après les chiffres officiels publiés ce lundi. L'inflation est due à une forte dévaluation de la livre égyptienne qui a perdu la moitié de sa valeur en un an, faisant grimper les prix alors que les ménages ont du mal à joindre les deux bouts dans un pays dépendant des importations.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Début ce week-end de l'Afro-CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de basketball en Angola.
Oui, 12 sélections réparties en 4 groupes de 3 s'affrontent depuis samedi à Luanda. Déjà qualifiée pour les quarts, la République démocratique du Congo s'est imposée 77 à 58. Devant le Mozambique, les Congolais tenants du titre avaient déjà bien entamé la défense de leur titre par une victoire contre le Cameroun. Piero Ilunga, le coach des Léopards basketteurs locaux, montre déjà ses ambitions.
Déjà, la RDC tenante du titre ne peut rien faire si ce n'est de reconquérir le titre. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux que reconquérir le titre, donc on est là pour ça.
Piero Ilunga, coach des Léopards basketteurs locaux. Un peu plus tôt, le Kenya est tombé face au Gabon 63 à 66. Qualifiés pour les quarts, le Maroc et la Tunisie se sont affrontés dans un duel nord-africain, soldé par la victoire des Tunisiens 67 à 52. Certaines équipes sont d'ores et déjà out. C'est le cas du Rwanda qui a concédé sa deuxième défaite, battu in extremis cette fois par le Maroc 59 à 58, tout comme le Mali et le Cameroun, défaits respectivement par le Nigeria 62-56 et le Mozambique 65 à 71.
Basketball toujours avec la deuxième apparition réussie pour Victor Wembanyama dans la Summer League.
Le prodige français a illuminé la rencontre et fait valoir son statut de numéro 1 de la draft malgré la défaite de son équipe. San Antonio, 80 à 85 face à Portland. Avec brio, Victor Wembanyama a compilé 27 points et récupéré 12 rebonds en 27 minutes tout en étant une nouvelle fois un protecteur de haut niveau, 3 contre surtout. Là où il était attendu, le joueur des Spurs a corrigé la mire au tir, 9 sur 14. Vendredi, lors de sa première apparition avec le maillot de la franchise texane, le Français de 19 ans, 2,24 m, avait été en difficulté offensivement, avec un manque évident de précision, 2 sur 13 au tir.
Football comme son père, Noah Fadiga, plombé par un problème cardiaque.
Le défenseur latéral bressois affirme qu'il ne peut plus jouer en France à cause de problèmes cardiaques. Des tests en fin de saison à Brest ont révélé qu'une irrégularité s'était produite dans mon rythme cardiaque, a expliqué sur les réseaux sociaux le joueur de 23 ans. Noah Fadiga ajoute qu'en raison d'une politique de zéro tolérance, La commission médicale de la Fédération française de football a révoqué sa licence française de football. Selon le jeune joueur, après des examens approfondis, le professeur Pedro Brugada, qui avait opéré son père du cœur en 2004, avait pourtant conclu qu'il pouvait poursuivre sa carrière sans aucun risque. Son père, Halidou Fadiga, avait subi un coup dur quand la découverte d'une arythmie cardiaque avait fait capoter son transfert à l'Inter Milan en 2003. Opéré deux fois du cœur en 2004, avec en particulier la pose d'un défibrillateur automatique, il a continué à jouer en Angleterre, puis en Belgique jusqu'en 2011.
Page de sport VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis près de 14 ans, a annoncé hier dimanche qu'il sera candidat à un troisième mandat à la présidentielle du 26 août. Il fera face à une opposition très divisée. La campagne électorale officielle va s'étaler du 11 au 25 août à minuit. Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Libreville, Marc Ona, membre de la société civile et secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest.
Ben, je voudrais d'abord dire que la candidature d'Ali Bongo ne surprend personne, dans un premier temps. La deuxième chose, Ali Bongo est en otage de ceux qui profitent de son état pour piller le pays. Et troisième chose, je pense que si Ali Bongo était encore maître de lui-même de ses décisions, il ne se serait même pas présenté. Ali Bongo n'est plus en capacité de gérer le pays. Alors, il prenait le bien-être. Mais je voudrais tout simplement rappeler qu'Ali Bongo vient de passer 14 ans au pouvoir. 14 ans, et c'est 14 ans de déclin. Il n'y a qu'à venir au Gabon où vous allez constater que quand Ali Bongo est arrivé en 2009, il y avait de l'eau dans les quartiers au Gabon. Il y avait de l'eau. Il faut ne prendre que cet exemple de l'eau. Et revenez à Libreville, 3 quartiers sur 4 n'ont pas d'eau. N'ont pas d'eau. Je ne voudrais même pas parler d'infrastructures sanitaires et scolaires. Tout est dans un délabrement absolu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit truc depuis qu'Ali Bongo a eu son accident vasculaire cérébral qui s'est accaparé des ressources du pays pour piller, pas pour développer le Gabon. Depuis l'investissement d'Ali Bongo en 2009, le Gabon a eu des budgets que ce pays n'a jamais eu, l'un des pays les plus riches d'Afrique. Mais nous sommes aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs, l'un des pays les plus pauvres en termes d'indicateurs économiques.
Quelle est l'alternative ?
L'alternative, c'est la tenance au pouvoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on est condamné à avoir un Bongo à la tête du pays, même dans un état fébrile comme lui, après son accident vasculaire cérébral, le pays n'est plus dirigé. Moi, j'aurais pensé qu'Ali Bongo, en termes d'orgueil personnel, il pouvait au moins se dire, bah, écoutez, là, je vais me reposer pour continuer à me soigner. Il est affaibli, et tout le monde le sait. Et un cinquième mandat permettrait effectivement à ceux qui profitent de son état de continuer à mieux piller le Gabon, au détriment du bien-être des Gabonais.
Alors,
c'est pas mon analyse, c'est l'analyse de tout le monde.
Ça va être un scrutin à un tour, mais on sait que l'opposition s'avance pour l'heure en ordre dispersé. Est-ce qu'elle a une quelconque chance de rivaliser avec Ali Bongo, même dans son état actuel?
Ben, je pense que ce discours qu'on a toujours entendu quand il s'agit des élections en Afrique, l'opposition en a dispersé. Et pourquoi dans les autres continents on ne sollicite pas une opposition unie pour affronter les candidats? Non, c'est pas parce que c'est l'Afrique où toutes les oppositions doivent se mettre ensemble pour affronter. On a eu en 2016 Ali Bongo affronté combien de candidats? Aujourd'hui, la problématique au Gabon, aujourd'hui en Afrique, c'est la transparence dans le processus électoral. Si le pouvoir en place organise des élections dans de très bonnes conditions, de transparence, je pense que le problème que nous soulevons ne se poserait même pas. Le Gabonais choisirait le meilleur candidat qui correspond à leur aspiration. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas les moyens qui font voter au Gabon en Afrique. Ce sont les méthodes d'organisation des élections qui posent problème. Et est-ce qu'en Afrique, au Gabon, on va organiser des élections transparentes? Oui, si on organise des élections transparentes, ben, le pouvoir en fait ne peut pas gagner les élections. Le challenge, c'est sur l'organisation des élections dans les conditions les meilleures et avoir des institutions républicaines.
Marc Ona, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest. Une embarcation pouvant transporter environ 200 migrants a été localisée aujourd'hui au large des Canaries. Selon l'ONG Caminando Fronteras, L'embarcation recherchée était partie le 27 juin de la localité sénégalaise de Kafountine. Deux autres embarcations parties du Sénégal le 23 juin sont aussi portées disparues avec environ 120 personnes à bord. Yacouba Ouedraogo, adjoint à Dakar, Ibrahim Khalil Ouad, journaliste spécialiste des questions migratoires.
Plusieurs étrangers, ce sont des jeunes africains. Souvent, ce sont des Sénégalais, des Gambiens, des Maliens, des Sierra Leonais, des Guinéens. On y trouve pratiquement toutes les nationalités ouest-africaines. Et ce n'est pas une nouveauté. Depuis 2005, il y a eu toujours eu des embarcations qui ont quitté le sud du Sénégal, plus particulièrement la Casamance ou la Gambie. Et souvent, bon, ils quittaient depuis Elinkin ou depuis Bunkling pour essayer de rejoindre les côtes canariennes. Bon, parce que, comme vous le savez, les contrôles avec Frontex sont devenus beaucoup plus rudes et beaucoup plus difficiles. Donc, pour essayer d'échapper à ces contrôles, bon, les gens ont tendance à quitter depuis le sud du Sénégal.
Qu'est-ce qu'ils empruntent comme voie en quittant depuis le sud du Sénégal pour échapper au contrôle de Frontex?
Des fois, bon, ils peuvent rallier la Casamance à travers des bus ou bien à travers des véhicules. Et une fois sur place, bon, il y a des réseaux qui sont très bien organisés. Bon, ils savent où se rencontrer pour ensuite prendre ces embarcations de Frontex.
Ces embarcations, généralement, arrivent difficilement à destination. Il y a beaucoup de morts. Les mesures sont prises au niveau national. Je vais parler du côté du Sénégal pour empêcher tout cela. Et le phénomène persiste. Selon vous, comment il faut expliquer cela?
Le phénomène persiste parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la jeunesse est de plus en plus désœuvrée. Bon, il y a une jeunesse sans espoir qui pense que l'avenir, voire le paradis, se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, ce qui est une fausse idée. Avec les contrôles qui sont de plus en plus difficiles, surtout au niveau de Dakar et de la petite Côte d'Ivoire et au niveau de Saint-Louis, bon, ils pensent qu'à partir de la Casamance ou bien à partir de la Gambie, bon, ils ont plus de chances de rejoindre l'Atlantique, de rejoindre les îles Canaries. Et nous sommes actuellement au mois de juillet, nous sommes en période d'été. Les conditions météorologiques semblent être beaucoup plus favorables pour ce voyage risqué, mais il n'empêche que le risque est toujours là. Les jeunes continuent de prendre ces embarcations en dépit des morts qui jalonnent leur route et ça devient vraiment un véritable problème politique qu'ils tâchent de régler. Sinon, bon, je ne vois pas de solution pour empêcher les jeunes de prendre ces pirogues tant qu'il n'y aura pas de travail en Afrique.
Est-ce que c'est seulement le manque de travail qui fait que ces jeunes-là prennent le risque d'aller mourir en mer?
Non, c'est le manque de... Bon, quand on parle de problème politique, on manque d'espoir. Il ne faut pas se voiler la face, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Guinée, que ce soit en Gambie ou au Mali. Il faut reconnaître que beaucoup de jeunes africains n'ont plus espoir. Ça, c'est une réalité. Et c'est ce manque d'espoir qui les pousse à tenter ce suicide. Parce que moi, je l'ai toujours écrit et dit que bon, vouloir relier l'Europe à travers des embarcations de poitrine, c'est un suicide, qu'on le veuille ou non.
Ibrahim Khalil Ouad, journaliste spécialiste des questions migratoires.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au moment où les membres de l'OTAN se préparent pour leur prochain sommet à Vilnius, les États-Unis ont de nouveau justifié leur décision d'envoyer des bombes à fragmentation en Ukraine. Cependant, les chances que Kiev rejoigne l'OTAN de sitôt sont presque nulles, comme le rapporte Véronica Balderas Iglesias de la VOA. Le récit est de Mohamed Oumfa.
Les bombes à fragmentation peuvent tuer de façon aléatoire. Ils sont interdits dans plus de 100 pays. Mais alors que l'Ukraine est à court d'arsenal dans sa contre-offensive contre la Russie, les États-Unis ont finalement accepté de leur envoyer de telles bombes, selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, dans l'émission This Week d'ABC.
Nous enverrons ces obus d'artillerie supplémentaires qui contiennent des bombes à fragmentation pour aider à combler le déficit pendant que nous augmentons la production de 155 obus d'artillerie ordinaire.
Le gouvernement russe, qui a pourtant admis utiliser de telles armes dans les zones urbaines en Ukraine, a condamné cette décision. Les défenseurs des droits de l'homme ont souligné les dangers que représentaient les bombes à fragmentation pour les civils. La représentante démocrate Barbara Lee en a fait écho sur CNN.
Ils n'explosent pas toujours immédiatement. Les enfants peuvent marcher dessus. C'est la ligne qu'il ne faut pas franchir.
Interviewé sur ABC, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau souligné l'importance pour son pays de recevoir du soutien logistique international.
Les F-16 ou tout autre équipement dont nous avons besoin nous donneront l'occasion d'aller plus vite, de sauver plus de vies, de tenir bon pendant longtemps.
Zelensky a ajouté qu'il aimerait obtenir des garanties de sécurité claires de l'OTAN lorsque ses membres se réuniront à Vilnius en Lituanie. Pour sa part, le président américain Joe Biden a déclaré sur CNN qu'il y a peu de chances que l'Ukraine rejoigne l'OTAN de sitôt.
Je ne pense pas qu'il y ait unanimité au sein de l'OTAN sur l'opportunité d'intégrer ou non l'Ukraine dans la famille de l'OTAN maintenant, en ce moment, en pleine guerre. C'est un processus qui prend un certain temps pour obéir à tous les critères, de la démocratisation à une série d'autres critères.
Le représentant républicain Michael McCaul a exprimé un avis similaire sur CNN.
Ils ont démontré une volonté de combattre, une volonté de liberté et de démocratie contre la tyrannie et l'oppression. Je pense qu'ils méritent, mais il faut suivre la bonne voie et ne pas les intégrer immédiatement dans l'OTAN.
Des discussions sur la manière de rapprocher Kiev d'une adhésion à l'alliance militaire devraient avoir lieu lors du sommet de l'OTAN.
VOA Afrique en direct de Washington.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a achevé dimanche une visite de 4 jours en Chine pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux pays, les relations s'étant dégradées ces dernières années. Les deux parties ont discuté économie, ballons espions et changement climatique. Arash Arabasadi de la VOA fait le point, le récit avec Lionel Gaïma.
Une récente manœuvre d'un navire de guerre chinois dans le détroit de Taïwan, passant trop près d'un destroyer de la marine américaine que les États-Unis ont qualifié de dangereuse, a mis en évidence les tensions entre les deux plus grandes superpuissances du monde. C'est dans ce contexte que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s'est rendue à Pékin. Elle a rencontré les autorités chinoises pour discuter des questions comme le commerce, l'environnement et l'espionnage. Des progrès semblent avoir été accomplis, mais Mme Yellen a déclaré que les deux pays ont encore du chemin à faire.
Les États-Unis et la Chine ont des désaccords importants. Ces désaccords doivent être discutés clairement et directement. Le président Joe Biden et moi-même n'envisageons pas les relations entre les États-Unis et la Chine sous l'angle d'un conflit entre grandes puissances. Nous pensons que le monde est suffisamment grand pour que nos deux pays puissent prospérer.
Le voyage de Mme Yellen fait suite à un autre incident survenu au début de l'année avec un ballon espion chinois qui a survolé une grande partie des États-Unis et du Canada. Les États-Unis ont finalement battu l'engin, ce que le gouvernement chinois avait qualifié de réaction excessive. Ce sujet a été abordé par le nouveau vice-premier ministre chinois, Xu Lifang, lors d'une réunion avec Mme Yellen la semaine dernière.
Il est regrettable qu'en raison d'une série d'incidents inattendus, tels que celui sur le ballon dirigeable, les relations entre la Chine et les États-Unis aient connu quelques difficultés, en particulier dans la mise en œuvre du consensus des deux chefs d'État. Nous souhaitons que la partie américaine adopte une attitude rationnelle et pratique, rencontre la partie chinoise à mi-chemin et traduise les remarques positives en actions afin de stabiliser et d'améliorer les relations entre la Chine et les États-Unis.
Janet Yellen a également discuté de ce qu'elle a appelé des lignes de communication honnêtes, notamment en ce qui concerne les questions climatiques. Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain, s'exprimant à nouveau depuis Pékin sur les propos rapportés par la Associated Press.
En tant que les deux plus grandes économies du monde, il est dans notre intérêt de travailler ensemble sur ces défis. C'est ce que le monde attend de nous. Le changement climatique figure en tête de liste des défis mondiaux. Les États-Unis et la Chine doivent travailler ensemble pour faire face à cette menace existentielle.
Les deux pays ne s'attendaient pas à une avancée diplomatique majeure. La visite de Mme Yellen s'étant déroulée dans un contexte de relations turbulentes. Le Wall Street Journal a rapporté le mois dernier que la Chine avait conclu un accord secret avec Cuba pour établir une station d'écoute électronique capable de recueillir des informations dans le sud-est des États-Unis. Et le président américain Joe Biden a récemment qualifié le président chinois Xi Jinping de dictateur, ce qui n'a pas arrangé les choses.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Lyon à ce micro. À la mise en onde, Joël Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.